Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous au fil de la prochaine heure pour parler bande dessinée. Et c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous adresser la parole depuis le début de l'année 2021. Alors, je pense que c'est d'office de commencer l'émission en vous souhaitant bonne année, en vous transmettant mes meilleurs voeux de santé, entre autres, puisque c'est le sujet du jour. Alors, de santé pour l'année 2021. L'année 2020 qu'on a vécue était une année fort particulière, il va sans dire, je pense que je ne l'apprends à personne. On a tous et chacun, peu importe où on se trouvait, vécu et traversé la même tempête, une tempête qui, je l'espère, va s'estomper au fil de 2021, une tempête qu'on a vécue chacun dans nos bateaux, certains meilleurs que d'autres, mais on a réussi à traverser à tout le moins l'année 2020. Alors, en espérant que 2021 nous amène la fin de cette tempête-là et l'opportunité d'enfin passer à autre chose. Et parallèlement, puisqu'on parle de nouvelle année, pour moi, c'est toujours un peu aussi l'année des bilans. Si vous êtes un auditeur régulier ou une auditrice régulière de La Vie en BD depuis une dizaine d'années, vous le savez, on a l'habitude de commencer l'année avec justement les bilans. Donc, je sais que la plupart des gens les font avant le temps des fêtes, mais moi, personnellement, je préfère attendre après, si ce n'est pour profiter des deux semaines, trois semaines de pause qu'on a pour replonger dans les lectures, pour relire des livres que j'ai peut-être lus un peu trop rapidement, pour pouvoir l'en lire des nouveaux, descendre un peu la pile de PDF qui traîne dans mon ordinateur, descendre un peu celle qui traîne dans ma tablette, descendre un peu les bibliothèques qui n'attendent que d'être consommées. Donc, pour commencer l'année avec peut-être un peu moins d'albums en attente, malgré qu'il y en a toujours. En fait, il y a tellement de publications livres et là-dedans, il y a tellement de publications BD. Du côté franco-belge, c'était quoi, à peu près plus de 5000 BD par année en général, pratiquement une centaine du côté québécois. Et je ne rentre pas dans l'anglophone, dans l'international, du côté manga, entre autres. Donc, il y a quand même une masse importante de bandes dessinées. Et ce qui fait aussi qu'il y a toujours un certain inconfort à faire des bilans, dans la mesure où, surtout pour l'international, surtout pour certains types de publications, mais j'ai l'impression de ne pas nécessairement en avoir suffisamment lu pour vous arriver avec une revue définitive de l'année. Cela dit, il y a quand même des palmarès, je pense, entre autres au Grand Prix de la critique à CBD, qui offre quand même des bilans intéressants d'une partie de l'année, notamment. Donc, ça peut être des portes qui viennent compléter un peu. Il y a une multitude de palmarès et de prix BD aussi qui sont publiés, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs. Alors, en complément avec l'humble chronique que je vais vous proposer aujourd'hui, j'imagine que ce sera possible pour vous de prendre le pouls de cette année. Une année BD qui a quand même été intéressante, qui a été interrompu le temps de quelques mois, je pense mars, avril, mai, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça a quand même repris de plus belle. Et somme toute, quand je regarde les publications qu'on a eu l'occasion de lire, de découvrir au fil de l'année, on a quand même eu une belle année. On a quand même eu de belles propositions, de bonnes lectures. Et de façon générale, moi, je sors de 2020 comme lecteur BD satisfait. J'ai eu des très belles propositions, des très bonnes propositions. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai envie de commencer l'année 2020 avec justement un regard, l'année 2021, avec un regard sur ce qui s'est passé en 2020. Donc, de voir, de replonger, de creuser l'année et d'essayer de vous en offrir un résumé en coup de cœur. Et je me suis dit, 2020, 20 albums. Alors, on va faire un survol de l'année en 20 albums qui, pour moi, ont été des coups de cœur. Évidemment, dans certains cas, il y a peut-être d'autres lectures qui vont s'ajouter au fil des semaines et mois à venir qui pourraient potentiellement, a posteriori, venir un peu teinter ce regard-là. Mais reste que pour moi, il y a quand même des incontournables dans ce que je vais vous proposer ou des titres qui sont incontournables pour moi pour diverses raisons. Et peu importe l'ampleur des lectures potentielles ou de ce qui me resterait à lire là, au fil de l'année. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va débuter l'année. Donc, cette semaine, vraiment, un regard sur mes coups de cœur, donc 20 coups de cœur 2020. Et la semaine prochaine, ce sera le club de lecture qui fera l'exercice. Mais bref, on se lance aujourd'hui avec un regard sur donc, des coups de cœur BD de l'année 2020. Donc, 2020 en 20 albums. Alors, et comme il est à l'habitude ici à La Vie en BD, j'aime bien me lancer avec des propositions qui sont québécoises d'abord. En fait, pour moi, c'est important, c'est essentiel, c'est incontournable de commencer d'abord et avant tout par parler de la bande dessinée québécoise, de mettre en valeur les titres et les auteurs d'ici. Alors, c'est ce que je fais à nouveau cette année. Donc, on va y aller avec 11 titres ou mentions qui sont québécoise, d'auteurs québécois francophones. On va tomber ensuite avec des titres internationaux. Il y en a 9 pour compléter. Et donc, ça nous fera un tour de roue assez intéressant. Et donc, pour revenir, donc, bande dessinée québécoise, quand même une chouette année. Beaucoup de titres, une belle variété, des éditeurs qui ont été très actifs aussi à l'intérieur de ça. Et ce qui fait que ça a été quand même relativement facile de sortir un top 8. Parce que oui, cette année, j'y vais avec des top 8 et des top 3. Semble-t-il que c'est la nouvelle mode, on ne fait plus de top 10. Alors, ben, je me lance là-dedans. J'aime suivre le mouvement. Alors, pourquoi pas, je me lance aussi. Alors donc, un top 8 de la bande dessinée québécoise. Évidemment, je le redis, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, mais je me sens toujours un peu... Je suis qui pour dire qu'une BD est meilleure qu'une autre dans l'absolu? Pour moi, dans le fond, les 8 titres sont tous extrêmement bons, ceux que je vais vous proposer. Je vous recommande de les lire si vous vous reconnaissez un peu dans la proposition qui en est faite. Évidemment, pour le côté ludique de la chose, ben, on va s'amuser à les lister, mais dans certains cas, ben, c'est... purement du ressenti, et le ressenti d'aujourd'hui n'est pas nécessairement le ressenti de demain non plus. Alors, il y a certaines BD qui pourraient se retrouver, qui sont peut-être 7e, qui pourraient se retrouver 6e, etc. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est 8 BD que je juge incontournables. Évidemment, ben, si on se limite à 8 titres, ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on a dû mettre de côté, tasser, si on peut dire, du palmarès, mais que j'avais quand même envie de vous mentionner. Parce que pour moi, ça me paraît un peu limitatif, 8. Alors, mais pourquoi pas monter jusqu'à 11? Parce que pour l'instant, ben, il y a 11 BD québécoises que je n'aurais pas grand-gêne à vous recommander. J'y vais aussi, parenthèse non reliée, mais j'y vais un peu ad lib. Donc, pas grande note, il reste. Donc, désolé si parfois je vous semble un peu confus. C'est volontaire et involontaire à la fois. Mais bref, les parenthèses sont fermées. On peut plonger. Alors, donc, des mentions honorables côté québécois, je disais, j'en ai 3. Il y en a une, en fait, c'est Le Convoyeur de Tristan Rouleau et Dimitri Armand. Donc, Convoyeur, tome 1, Nymphe. Donc, Tristan Rouleau qui bosse quand même sur différentes séries actuellement, différentes propositions, et entre autres Iron, je pense, et quelques autres. Donc, on voit son nom apparaître ça et là. Et c'est un scénariste qui est efficace, qui est solide. C'est rare qu'il y ait une proposition qui nous amène que je vais trouver imbuvable de façon générale, et bien au contraire. En fait, je pense à Aral, par exemple, l'an dernier, qui était très, très solide aussi côté album, qui s'était retrouvé dans certains palmarès. Et j'ai l'impression que Le Convoyeur pourrait aussi se retrouver dans une position un peu similaire. Donc, un début de série solide. Je pense que j'avais livré sur lavieenbd.com et sur ma chaîne YouTube un petit commentaire de 5 minutes là-dessus. C'est un album dans lequel on est rentré dans assez de détails, je pense, pour l'intérêt qu'il a représenté pour moi cette année. Donc, vraiment, on lance une série, et lancer une série, c'est pas facile, à mon sens, dans la mesure où il faut bâtir un univers, il faut construire des protagonistes, mais il faut quand même aussi qu'il y ait un peu d'os, une histoire qui nous permet de prendre le pouls du personnage dans l'action, et en mettant la table aussi à des albums subséquents. Et Le Convoyeur, à mon sens, le fait de très, très belle façon. Donc, on arrive avec un dessin qui est solide, qui est suffisamment coloré, dans le contexte d'une planète Terre qui a été rongée par un mal. Il faut dire que des récits post-apocalyptiques, il y en a quelques-uns, d'ailleurs, ça et là, dans les 20 albums que j'ai choisis. Et, je ne sais pas, c'est un état du monde qui nous inspire ça ces temps-ci, entre autres avec les changements climatiques. Mais bref, dans Le Convoyeur, l'idée, c'est que c'est le métal qui est victime, entre guillemets, d'une bactérie quelconque. Et donc, il n'y a plus de métal sur Terre. Les objets qui sont faits en métal ne marchent plus, etc. Et évidemment, à travers tout ça, comme il y a du métal dans le sang, ben, on peut aussi avoir des mutants ou des mutations. Donc, c'est quand même un beau monde de possibles de ce côté-là. Et à la limite, ça paraît tellement une évidence en lisant cette proposition-là et cet a priori-là à l'intérieur du Convoyeur, que je me disais, ben, pourquoi personne n'y a pensé avant? C'est vraiment une bonne idée au départ. Et alors, on se retrouve avec un protagoniste qui est taciturne, qui a ses objectifs qui lui sont propres, et qu'on met en place donc dans un début de série qui est très solide. Sincèrement, j'ai apprécié cet album-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous réserver. J'ai hâte de voir où cette série-là va s'en aller. Mais bref, comme premier tome de nouvelle série dans mes mentions honorables québécoises, Le Convoyeur là, s'y trouve en belle position. S'y trouve aux côtés d'un album dont je ne vous ai pas encore parlé à l'émission, fort et je me rattrape, Blas, le chat sur un toit brûlant, donc qui nous amène, en fait, Michel Viaud nous avait amené comme scénariste dans avec l'affaire Mabi, avec l'affaire de l'Orme, pardon, avec Grégoire Mabi, dans le contexte, dans le fond, d'un crime de fait divers qui avait eu lieu là, au début des années 1900, avec le clergé qui était là-dedans, et une histoire un peu improbable aujourd'hui, mais qui est très ancrée dans son contexte d'époque, où on se disait, mais mon Dieu, un prêtre catholique ne peut pas avoir commis un meurtre, c'est un homme de Dieu, blablabla. Et Michel Viaud semble avoir un appétit pour les archives, semble avoir un appétit pour les faits divers et les histoires qu'on y retrouve. Et le Québec a quand même son lot de faits divers intéressants. Il va sans dire, il s'agit de les trouver et d'aller chercher les figures, dans le fond, emblématiques qui s'y retrouvent. Et Michel Viaud a mis la patte sur Richard Blas, qui est un criminel, qui a un peu mis... j'allais dire une expression qui se dit peut-être un peu moins bien, mais qui a mis le trouble, disons-le, dans le milieu criminel montréalais, entre autres. Et on nous raconte un peu son histoire. C'est dessiné par Jocelyn Bonnier, qui avait livré de façon indépendante là, les excellents deux tomes de son adaptation à la sauce québécoise de l'idiot de Dostoïevski. Et bref, avec Blas, on nous amène dans un récit... ça faisait penser un peu à Monica la mitraille là, pour les références cinématographiques là, en termes d'époque, de ton, etc. Donc vraiment un récit policier québécois, un récit mafieux québécois, bien ancré dans l'époque, beau récit d'action, des choses qui se passent, des enjeux. Bref, c'est bien fait, c'est bien maîtrisé, c'est bien cadré. Sincèrement, ça a été une belle surprise. Il y a quelques albums comme ça dans le palmarès que je n'ai pas trop vu arriver, qui me sont tombés dessus comme ça par hasard. Et Blas en est un. Donc, je t'ai dit un coup d'œil là, dans mes mentions honorables. Et troisième mention honorable, ça va à Tom pour Casa Rodeo. Quand je disais tantôt que les albums qui pourraient se retrouver dans différentes positions, dans un top 8 ou non, ben Casa Rodeo, il est comme toujours sur le bord du top 8. Selon comment je me sens, il peut s'y retrouver ou non. Donc, il est vraiment sur la frange. Là. Si je faisais un top 9, il serait là, c'est sûr. Tom, en fait, qui est arrivé avec il y a quelques années, album excellent, qui nous avait proposé, je veux dire, d'offrir un récit muet à enjeu, à réflexion, drôle. Donc, c'était vraiment un tour de force, à mon sens. C'est le genre de récit qui est dur à faire et qui est dur à lire et qui est dur à apprécier. Bref, pour moi, c'est un champ de mine, un peu un récit muet, mais quand c'est bien fait, c'est tellement bon. Et c'était le cas avec Seth. Et Tom a réussi à récidiver avec Casa Rodeo, une histoire improbable de gens qui perdent leur maison parce que leur maison est tannée de les héberger, mais de gens, c'est un grand mot. Et donc, la maison quitte essentiellement, donc c'est une maison sur pattes, et chacun s'en va dans des histoires séparées pour essayer de se retrouver une nouvelle maison. Et c'est comme ça que ça commence. Et ensuite, j'essaierai même pas de vous résumer l'histoire. Ça va dans plein de directions. C'est intéressant, c'est bien fait. C'est clair. C'est une belle ligne qui ne perd pas son lecteur. Et dans le contexte d'un récit muet, et dans le contexte d'un récit muet à tendance un brin absurde, ça aurait pu arriver. Mais ce n'est pas arrivé. Et au contraire, on suit bien l'histoire, on comprend bien les enjeux, on saisit bien la nature des personnages et protagonistes. Donc bref, ça se tient très, très bien. Et c'est pour ça que pour moi, donc Casa Rodeo là, est vraiment sur le bord de mes BD favorites québécoises de l'année. Donc ça, c'est du côté de Pau-Pau, Casa Rodeo, et tantôt je parlais de Blas, c'est du côté de Glénat. Alors voilà donc pour les mentions honorables. J'en suis déjà à peu près une quinzaine de minutes d'émission et je n'ai pas encore commencé le premier top 8. Ça donne le ton, mais j'avais hâte de vous partager ces éléments-là. Alors on va plonger dans le top 8. Oui, top 8 québécoises, donc mes 8 coups de cœur BD de l'année. Alors, ben, je commencerai peut-être, il y a disons deux lignes thématiques qui ressortent peut-être un peu plus si on s'amuse un peu à essayer de comprendre notre année. Donc, d'un côté, il y a une trame historique qui est très forte. Donc, il y a quatre albums de mon top 8, et je pense, en fait, littéralement, les quatre premiers albums de mon top 8, qui sont des albums à caractère historique. Et les quatre autres, c'est des albums dans lesquels on est peut-être un peu plus dans une recherche personnelle, dans une recherche intime. Donc, c'est vraiment un peu les deux grandes trames de ce top 8-là, deux grandes trames qui se croisent et qui se chevauchent. Alors, les quatre premiers titres que je mentionnerai, donc de 8 à 5, on est vraiment justement dans les récits plus personnels et je m'en rends compte au moment que je suis en train de vous en parler. J'ai ma petite liste en avant de moi et je me dis, ah ben, j'ai mis les quatre albums historiques en tête, alors comme quoi c'est peut-être ceux qui m'ont le plus marqué pour l'année, mais quand même. Alors, donc, en huitième place, une bande dessinée qu'on m'avait annoncée, comme ça, on m'avait dit, tu jetteras un coup d'œil à celle-là, Raymond, là, ça devrait être intéressant, ça devrait être quelque chose qui va te parler. Et oui, ça m'a parlé, de toute évidence. La brume de Mireille Saint-Pierre, c'est chez Nouvelle Adresse, si je ne me trompe pas. Donc, La Brume, un récit dont je ne vous ai pas encore parlé à l'émission non plus, et je ne sais pas pourquoi je suis en retard dans les entrevues, mais celle-là, il faudra qu'on la décortique un peu plus. Donc, Mireille Saint-Pierre, qui a fait un voyage à New York, accompagnait son conjoint, qui allait faire un reportage sur un groupe de musique, une boîte d'édition, donc dans le tournage d'un album. Donc, lui est photographe, elle, de toute évidence, les dessinatrices, graphistes et autres. Éventuellement, bon, elle va choisir de dessiner un peu les croquis, de vivre un peu ce moment-là avec lui, mais ce n'est pas le cœur de l'histoire au bout du compte. Ça, c'est le contexte. Et à l'intérieur de ce contexte-là, bien, il y a quelque chose de plus intense qui se vit, puisque la dame est enceinte et qu'au cours de ce voyage-là, bien, elle va en venir à perdre son bébé. Donc, La Brume, bien, au bout du compte, c'est l'histoire d'une fausse couche. C'est l'histoire d'une fausse couche à New York qui nous ramène vers le Canada. Et surtout, c'est l'histoire de moments difficiles, de moments complexes, de moments qu'on ne sait pas exactement comment les vivre, comment les ressentir, comment les traverser. Donc, c'est un peu une fausse couche. Je veux dire, c'est un deuil qui est particulier. Le deuil d'un être que tu as senti, mais que tu n'as jamais vu. Et c'est plein de sentiments denses. C'est pas facile, disons-le comme ça, pour être passé aussi par là. Pas moi personnellement, là, évidemment, puisque je peux pas porter d'enfant, vous le comprendrez bien. Mais bref, c'est un album aux thématiques qui résonne, je pense, chez beaucoup, et qui nous est proposé avec beaucoup de sincérité. Mireille Saint-Pierre nous présente l'histoire, la situation, mais tout en douceur, tout en simplicité, et avec, dans le fond, une sincérité vraiment qui ressort de ça. Alors, c'est un beau moment de lecture, pas nécessairement un moment de lecture qui est facile, mais qui est beau. Et c'est ce qu'on lui demande. Alors, donc, top 8, 8e place, donc La Brume de Mireille Saint-Pierre. On va aller chercher le 7e choix et on reste un peu dans des quêtes personnelles. Et l'autre élément qui ressortait, bon, en fait, dans cet autre album qui traversait l'autoroute de Sophie Bienvenue et Julie Rochelot, qui est arrivé en début d'année, parce qu'il y a eu un début d'année, c'est le milieu d'année qu'on n'a pas, mais il y a eu un début d'année. Donc, traverser l'autoroute de Julie Rochelot, Sophie Bienvenue, sincèrement, dans le fond, c'est un album encore là en toute simplicité. C'est des histoires, je veux dire, on peut la résumer sur deux lignes. Mais ce n'est pas ça l'important. On peut discuter du fait que les personnages ont évolué ou non, que c'est une évolution qui est durable ou non, mais ce n'est pas ça l'important. L'important pour moi dans cet album-là, un peu comme dans La Brume, c'est vraiment la description d'un moment. Un moment qui devient, de par la manière dont on l'amène, un peu hors du temps au bout du compte. Donc on fait abstraction de l'avant, de l'après. On nous propose, dans le cas de traverser l'autoroute, dans le fond, deux personnes qui sont dans leur auto, un père, un fils. On nous explique un peu qui ils sont l'un pour l'autre aussi, parce que ce n'est pas parce que c'est ton père ou c'est ton fils que tu vas nécessairement avoir un attachement profond, que tu ne vas pas nécessairement avoir des périodes un peu plus avides avec ces personnes-là. Mais ces deux personnes qui, au moment où on les retrouve, vivent justement un passage à vide. Les deux se trouvent mutuellement un peu cons. Les deux n'ont pas nécessairement tant envie de passer du temps ensemble, mais ils vont en passer quand même un petit peu. Ils vont se lancer en chasse ensemble pour aller acheter un gâteau. Et en cours de déplacement, ils vont tomber sur un chien qui est abandonné sur le côté de l'autoroute. Un chien qui va évoquer quelque chose de particulier chez le père et qui va mettre en place un plan avec un peu l'aide du fils ou un peu sous le regard du fils aussi pour essayer d'attraper le chien, éventuellement de le ramener à la maison. La richesse de ce récit-là, d'un côté, au niveau scénaristique, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un dialogue croisé où on voit la situation à travers les yeux de l'un et de l'autre des personnages. Donc ça, je trouve, c'est très intéressant. Ça nous amène, ça nous enrichit un peu la perspective par rapport aux événements qu'on est en train de vivre. Et à ça, on ajoute le dessin de Julie Rochelot. Et sincèrement, est-ce que cette femme-là est capable de faire quelque chose de pas beau? Est-elle capable de faire quelque chose de pas bon? Pour l'instant, je pose la question. Sûrement que dans sa vie personnelle, elle va dire, ben oui, je suis capable, mais dans ce qu'elle nous propose, dans les albums qu'elle a faits, elle n'en est pas capable à date. Et à notre plus grand plaisir, évidemment. Donc, on a toujours une belle garantie quand on tombe sur un récit comme ça de Julie Rochelot, que la mise en scène, que le visuel, que la manière par laquelle elle nous amène, elle nous entraîne dans ce récit-là soit la plus maîtrisée, la plus riche possible. Et elle le fait encore avec Traverser l'autoroute. Donc, elle donne une gravitas, une théâtralité à ce récit simple, à ce récit qui est percutant dans sa simplicité, et elle accentue, elle magnifie ce côté percutant-là aussi, ce qui fait passer d'un récit agréable, intéressant, un récit qui devient, justement, dans mes coups de cœur de l'année, au bout du compte, parce que le visuel va chercher, va magnifier un peu, comme je le disais tantôt, ces éléments-là. Alors ça, c'est Traverser l'autoroute du côté des éditions La Pastèque, donc de Julie Rochelot et Sophie, bienvenue. J'y vais rapidement avec les albums. Éventuellement, le souffle va me manquer. Je n'ai même pas de verre d'eau à côté de moi, c'est dire. Alors, on va tomber dans un tout autre registre, mais pour moi, on est encore un peu dans la quête personnelle. Six, donc Alice, de Jake Dion et Patrick Sénécal, chez À lire et Froid-Froid. Une adaptation BD donc de ce roman fleuve, presque, de Patrick Sénécal, une brique de quelques 700 pages qui a été ramenée à un niveau palpable et digeste pour la bande dessinée et un récit qui nous entraîne aussi dans une quête. Ici, on est dans une quête de soi-même. Donc, dans la mesure où l'héroïne, donc la Alice du titre, eh bien, se cherche, essaie de se découvrir, essaie de comprendre qui elle est au bout du compte et choisit de le faire un peu à travers la confrontation avec elle-même. Dans la mesure où un beau jour, elle se dit, ben voilà, je ne dis plus jamais. Non, je me mets en mode oui, je dis oui à tout et un peu n'importe quoi, et probablement un peu plus n'importe quoi que d'autres choses, malheureusement pour elle. Et donc, elle va se retrouver dans un quartier bizarre de Montréal. On ne sait pas trop où on se trouve, mais on n'est pas à Montréal, même si on y est. Et elle va retrouver donc un quartier particulier avec un bar, celui de la Reine Rouge, qui suscite une certaine attraction chez elle. Je ne sais pas trop pourquoi. Avec donc des voisins assez particuliers, un brin patibulaire, très glauque comme ambiance. Et elle va essayer de manœuvrer à l'intérieur de ça pour se découvrir elle-même et se confronter, aller jusqu'au bout d'elle-même, voire un peu plus loin. On est dans de la bande dessinée d'horreur. Évidemment, ce n'est pas une recommandation pour tout le monde, mais pour qui aime le genre et pour qui connaît Patrick Sénécal, ben, je pense que c'est déjà un incontournable pour vous. Pour ceux qui aiment la bande dessinée d'horreur en général, eh ben, jetez-y un coup d'œil si ce n'est déjà fait. Pour moi, la bande dessinée est un médium qui n'est quand même pas nécessairement évident pour nous amener dans ce type de récit-là et dans ce type de sentiment-là. Il y a quelques années, je pense qu'il y avait Michael avec Promise qui, à mon sens, avait réussi quelque chose de très fort, nous amener dans une ambiance, dans un esprit horrifique, au-delà du sujet. Parce que oui, le sujet peut être horrifique, mais si on n'est pas capable de transmettre un sentiment au lecteur, l'effet n'est pas là. Il faut avoir le sentiment, il faut avoir le ressenti, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe la page vers le lecteur, au-delà du récit. Il faut qu'il y ait un sentiment, une impression, une émotion. Et dans Promise, on l'avait, et dans Alice, on l'a. Donc, on y va avec une histoire qui est claire, qui est bien cadrée, qui est bien maîtrisée, une belle adaptation. Je pense beau travail là-dessus aux deux auteurs. Et au niveau du dessin, Il faut qu'on sente l'ambiance de ce quartier-là. Il faut qu'on sente l'état d'esprit d'Alice, l'état d'esprit des personnages. Alors, on y va avec des pages qui sont denses, des noirs qui sont très saturés, avec un peu de couleur, mais jamais quelque chose, à part le rouge. Rien qui est brillant, rien qui est vivant. C'est glauque, c'est sombre, et ça marche. Et ça marche parce que ben, le récit, justement, est porté par cette ambiance-là, est soutenu par cette ambiance-là, et réussit à faire mouche à cause de cette ambiance-là aussi, vient l'amener de belle façon, je pense, vers les plages, vers les planches. Alors, donc, en sixième place dans mon top 8 BD québécoise pour 2020, donc Alice de Jake Dion et Patrick Sénécal. On s'en va en cinquième place, c'est ce qui va clore un peu la partie quête de soi, si on peut dire. C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. Donc, un album dont j'ai parlé, je pense, de long et en large, autant dans des critiques, autant une longue entrevue que j'ai faite aussi avec Myrion sur cet album-là, entre autres, et principalement des entrevues et des chroniques, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur laviarbd.com ou sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça que je disparais, à sa plus simple expression, mais c'est un récit sur la dépression. Je ne rentrerai pas nécessairement dans ce qui cause un peu cette dépression-là, si ce n'est que ça apporte une dimension, ça apporte une richesse additionnelle au récit. Et de toute façon, moi, je vous dis, il faut le lire, vous le prenez, vous le lisez, vous le parcourez, surtout si ça vous parle un peu. Mais dans le fond, Myrion, après avoir offert une série de livres plus didactiques sur le féminisme, nous arrive avec « C'est comme ça que je disparais » où elle s'attaque à ce grand sujet-là, un sujet difficile, et elle le fait avec une grande sensibilité, une grande sincérité, une belle émotivité. On va explorer la dépression, mais de façon, je trouve, réaliste. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît de façon éclatante, c'est quelque chose qui est peut-être un peu insidieux, quelque chose qui se place un peu en toi-même, un peu avant que tu t'en rendes compte, qui crée des inconforts, qui crée des situations, qui peut éloigner des gens. Qui n'est pas nécessairement facile à exprimer, qui n'est pas nécessairement facile à recevoir non plus pour les autres. Et on fait le récit de ça dans « C'est comme ça que je disparais ». Le récit d'une descente, les tentatives de peut-être moins descendre qui n'ont pas marché, donc les tentatives infructueuses, en route vers la recherche d'un espace sûr, d'un « safe space » si on veut, pour exprimer ce mal-là, pour le verbaliser, et pour commencer son chemin vers une guérison. C'est ça, le récit de « C'est comme ça que je disparais ». Et je trouve que c'est un beau pari d'avoir justement choisi de montrer cet aspect-là, de ne pas nous entraîner dans une remontée, de ne pas nous entraîner dans un récit qui aurait peut-être une dimension un peu à l'eau de rose, où on dit « tout le monde, mais ça va bien aller, c'est beau, c'est facile ». Non, ce n'est pas facile. C'est pas évident de trouver la bonne personne, le bon moment pour dire les bonnes choses ou ce qu'on a besoin de dire. C'est pas facile de savoir ce qu'on a besoin de dire et à qui le dire. Donc, il y a tout ça qui est là-dedans et c'est tellement riche, c'est tellement beau et c'est pas facile non plus comme récit, on s'entend, mais vraiment, pour un premier récit de fiction, Myrion Mal nous a amené dans quelque chose de gros, dans quelque chose de solide et dans un pari qui est là, à mon sens, réussi. Donc ça, c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal du côté des éditions Pow Pow. De la vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous et vous avez ce soir un long monologue, si on peut dire, de ma part. Ne vous inquiétez pas, je n'en prendrai pas l'habitude, mais j'avais envie de vous amener à travers mon année 2020 en 20 albums. Alors, on est rendu toujours dans le top 8 bande dessinée québécoise, donc vers les 4 premières places. Et je le disais, en fait, 4 premières places qui ont un apanage qui est peut-être un peu plus historique. Donc, après avoir eu 4 tomes sur une recherche un peu de soi-même, donc on est dans l'historique. Alors, on y va avec 4e, « Traces de mocassin » de Louis Rémillard. Louis Rémillard qui, après le retour de l'Iroquois, le brillantissime retour de l'Iroquois, a cumulé, j'ai l'impression, quand même pas mal de récits, d'histoires qu'il avait envie de nous partager autour de figures méconnues autochtones de notre histoire et qui y va avec « Traces de mocassin » où on a 6 courts récits qui se place un peu en écho dans la suite du retour de l'Iroquois, donc dans l'aspect, dans l'ambiance, dans l'aspect visuel, dans l'aspect thématique, mais six récits qui sont aussi différents les uns des autres, donc des récits dans lesquels on était plus dans l'aventure, des récits dans lesquels on est à fond dans l'historique, d'autres dans lesquels on va carrément dans le didactique aussi, donc différentes ambiances, différentes figures qu'on nous propose, qu'on nous raconte, tiré bien souvent de récits, entre autres recensés dans les relations des Jésuites. Et Louis Rémillard m'avait fait un coup de circuit avec le retour de l'Iroquois. Et avec Traces de mocassin, ben, on a donc un joueur solide qui réussit à faire un autre coup de circuit avec la même thématique, mais avec un tout autre traitement qui fonctionne tout aussi bien. Les ambiances, les paysages, les dialogues, le rythme de tout ça, le choix des personnages, la capacité qu'il a à nous raconter leur histoire à l'intérieur d'un nombre réduit de planches, mais sans avoir l'impression non plus qu'il en reste beaucoup à dire ou qu'on n'en a vraiment pas assez dit. Donc, un équilibre. Et pour moi, ce n'est pas évident de faire des histoires courtes. Je pense que j'en jase à peu près à chaque entrevue que je fais sur des nouvelles. C'est vraiment pas évident. On a peu de planches pour circonscrire une histoire, des personnages, des caractères, des enjeux. Et Rémillard le réussit et redonne vie à ces figures-là. Alors, en fait, avec le retour de l'Iroquois, là, à mon sens, on a là un diptyque autochtone que nous offre Louis Rémillard qui devrait être incontournable dans nos lectures, d'autant si vous êtes intéressé et vous avez la fibre historique, vous êtes intéressé par l'histoire du Québec, il faut les lire, non seulement pour l'aspect un peu, entre guillemets, didactique, donc de découvrir ces récits-là, mais aussi parce que Rémillard le rend de main de maître. Il réaffirme avec ça, ça fait quoi, 30 ans qu'il fait le métier, réaffirme et confirme que c'est un artisan majeur, je pense, du 9e art au Québec. Il ne faut pas l'oublier et qu'il faut lire ces récits-là, là, ça c'est clair. Donc, Traces de mocassin, je pense que c'est déjà dans quelques palmarès et à juste titre. En troisième place, donc Yasmine et Djibril Fan-Morissette qui nous ont offert Kiem, Terre maternelle, c'est chez Glénat. Et l'enregistre album qui arrive de nulle part, je ne sais pas qui sont ces gens, d'où ils sortent. Peut-être que je suis mal informé, mais bon, je n'habite pas à Montréal, alors j'en échappe un peu des fois de ce côté-là. Et qui nous arrive avec un album, je veux dire, c'est géant, ce récit-là. Autant dans le traitement que d'abord et avant tout dans le récit. Je veux dire, oui, enfin, on peut parler de la bande dessinée, on peut parler que c'est bien fait, que c'est bien maîtrisé, qu'ils ont réussi à nous transmettre l'histoire de trois générations sans perdre le fil, sans nous y perdre de façon intéressante, qu'il y a de la recherche là-dedans, qu'il y a beaucoup de travail et le reste. Mais au-delà de ça, je pense qu'il fait passer à ce récit-là l'étape de très bon livre à excellente lecture. C'est l'investissement émotif des auteurs qui, à travers ça, nous partagent l'histoire de leur famille, nous partagent l'histoire de trois générations de femmes qui sont parties, donc, je pense, du Vietnam, si ma mémoire est bonne, vers le Québec, vers Montréal, les tribulations, les sacrifices, les défis qui ont été rencontrés. Et tout ça écrit par la troisième génération, dans le fond, qui ont été creusées, discutées, échangées avec celles qui les ont précédées pour essayer eux-mêmes de comprendre leur place à l'intérieur du monde, de comprendre leur place à l'intérieur de leur culture, à l'intérieur de leur histoire, oui, de leur histoire familiale, mais de leur histoire géographique, culturelle, historique et le reste. Donc, c'est grand. C'est grand comme pari, comme effort, comme récit, et ils réussissent à le faire parce qu'ils maîtrisent la narration, parce qu'ils maîtrisent le dessin, et bien ils sont capables de faire transparaître donc l'investissement, leur investissement émotif à l'intérieur de ça, leur volonté de se découvrir et de découvrir celles et ceux qui les ont précédés et de nous transmettre ça, de nous transmettre leur histoire familiale. Sincèrement, un album à lire aussi, Kiem, Terre maternelle, donc de Djibril et Yasmine Fan Morissette. Et un album sûrement qu'on vous reparlera aussi en cours de début d'année. En deuxième place, vous avez détruit la beauté du monde de Christian Kennel et d'une équipe de chercheurs de l'Université d'Ottawa. Un récit, et là, c'est, je veux dire, Christian Kennel, je connais quand même ses récits, son approche visuelle qui toujours très évocatrice, qui est très riche, des belles mises en scène, où on ne se gêne pas non plus de s'éloigner de la BD, d'aller dans les vocations, de jouer avec des effets de style, d'approche, d'organisation des planches, de mise en scène, et qui met sa science, si on peut dire, au service des sciences historiques, au service des sciences sociales, dans le contexte de ce « Vous avez détruit la beauté du monde », où on suit une équipe, dans le fond, de chercheurs qui sont intéressés au suicide, à l'histoire du suicide au Québec depuis 1763, qui ont étudié des dizaines de milliers de rapports du coroner pour essayer de comprendre pourquoi, comment, quoi, de saisir un peu tout ce qui entoure cet irréparable-là. Et Kennel réussit, d'un côté, avec l'équipe de chercheurs, ben, nous amener justement à travers beaucoup l'aspect textuel dans les travaux de cette équipe de recherche-là, parce qu'on nous les raconte dans une perspective de chercheur, dans une perspective de scientifique. On nous entraîne vers cette réalité-là, on nous présente différents cas, on les classifie, donc on est dans une logique de rapport de recherche. Mais en parallèle avec le dessin, on est dans une approche plus poétique, évocatrice, qui éclate un peu la manière par laquelle on va apporter la narration, qui apporte une dimension très émotive à ça, mais toujours respectueuse. Christian Kennel réussit à suivre la ligne, à la respecter, à choisir comment nous montrer, nous présenter les choses, mais toujours avec une grande justesse et une grande sensibilité. Et également, à travers cette sensibilité-là, à rendre justice au travail titanesque fait par les chercheurs pour comprendre les racines historiques de ce phénomène-là. Alors, ça en fait une œuvre qui est très particulière. Il y a quand même quelques œuvres de vulgarisation scientifique qui existent, mais j'en ai plus vu du côté des sciences pures, de certaines sciences historiques. Et le reste, c'est un ouvrage que je trouve qu'on a peu vu, un style d'ouvrage qu'on a peu vu à date. Et pour sa justesse et pour cette originalité-là, à mon sens, il mérite amplement sa place dans mes coups de cœur de fin d'année. Et dernier titre, dernier coup de cœur, mon numéro un, si on peut dire, la bande dessinée québécoise. Et vous devinerez enfin un album qu'on explorera un peu plus en détail la semaine prochaine en mode club de lecture, puisqu'il s'agit de ma proposition québécoise, si on peut dire. Il s'agit de La Bombe. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a il n'y a plus rien à dire sur La Bombe qui n'a pas déjà été dit. C'est un album qui est de tous les palmarès, qui remporte ça et là différents prix, différentes récompenses. Et pour cause, c'est un travail hallucinant, un travail titanesque qu'ont fait Laurent-Frédéric Bollé, Didier Alcante et Denis Rodier, donc auteur et dessinateur québécois, qui nous amène donc dans l'histoire de la bombe atomique, de la découverte de l'uranium jusqu'à Hiroshima. Dans une bande dessinée de 471 planches, de pages, de 441 planches. Et, je veux dire, un truc comme ça, ça aurait pu chavirer. Je veux dire, lire une brique de 441 planches, 471 pages, ça aurait pu chavirer. Du moment où on commence à tomber dans la routine, du moment où on n'arrive plus à trouver une façon originale de présenter ça. Alors, Denis Rodier a fait un travail extraordinaire de mise en scène de ce récit-là, accompagné d'une recherche visuelle. Bollé et Alcante ont fait une recherche historique solide aussi, digne de grands journalistes, à mon sens. Et avec un autre titre que j'ai mentionné tantôt, à mon sens, on a là une BD documentaire magistrale, incontournable, qui en fait probablement l'objet en BD québécoise qui est le plus majeur peut-être aussi cette année-là pour la bande dessinée québécoise et au-delà, en témoignent d'ailleurs les nombreuses citations ou récompenses que la BD a obtenues, mais je veux dire, c'est hallucinant comme un ouvrage et comme lecteur, ça se lit, on apprend, on vit, on saisit, on apprécie et ça se lit bien. Alors, ça me fait plaisir de vous la recommander chaleureusement, donc cette bombe qui est offerte également chez Glénat, qui est mon album québécois de l'année. Il nous reste un peu moins d'une quinzaine de minutes à l'émission. Alors, je vais aller peut-être un peu plus rapidement pour ce qui est hors Québec. Donc, comme j'avais dit d'entrée de jeu, à La Vie en BD, on essaie d'abord et avant tout de mettre de l'avant le talent et l'excellence des auteurs et autrices du Québec. mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie d'aller faire un petit tour ailleurs. Alors, je vais commencer par un top 3 d'albums en traduction. Top 3 et demi, puisque dans le fond, j'ai 4 titres pour 3 albums. Et ça me permettra d'aller chercher aussi mes 20 albums pour 2020 de manière un peu plus efficiente et efficace. Alors, premier titre, dans le fond, un album dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui, à mon sens, est incontournable, et je vous en reparlerai plus en détail aussi, c'est certain, que ce soit à l'émission, que ce soit sur la chaîne YouTube ou ailleurs. Donc, c'est Bix de Scott Chandler, c'est du côté des éditions de la Pastèque. Je le mets dans les traductions parce qu'il y a 2 pages de texte, mais il faut les mettre, donc elles existent, c'est une traduction. Mais sérieux, Chandler, de raconter de façon muette la biographie d'un musicien jazz, déjà, c'est un pari culotté, et de surmonter son pari, de relever son pari, de réussir à le faire, et à le faire de façon brillante, à nous faire sentir la musique, à nous faire sentir les émotions, à nous faire comprendre les événements. Je veux dire, c'est génial, c'est génial là, comme album. Ça montre les possibilités qu'offre le muet, ça montre que la bande dessinée n'a pas besoin des mots pour pouvoir exprimer des choses, pour pouvoir exprimer un récit, une clarté, et au-delà justement de récits absurdes, au-delà de récits expressifs, purement émotifs, bien, dans le biographique émotif, on est capable de le faire aussi. Alors, je pense que c'est quelque chose de majeur. J'utilise un peu ce terme à outrance dans les dernières minutes, mais bon, j'assume. Alors, Bix de Scott Chandler, là, vraiment, dans mon top 3 BD traduction, là, ça s'y trouve et ça mérite cette place aussi largement. Et je vous encourage, je vous enjoins à aller jeter un coup d'œil du côté des éditions La Pastèque. Deux autres titres, dans le fond, Les Mystères de Uptown, les éditions Papa nous ont offert en fait 2 titres de cette série de Chris Burton et Alexander Forbes coup sur coup pendant l'année 2020. Alors ben voilà, ils sont les deux là et à la limite en fait, ils méritent les deux leur place aussi là-dedans. Là, quelle bonne série d'enquête! Je l'ai dit déjà un peu, je me répète, j'ai l'impression d'être un disque qui saute, mais à chaque fois, au fil des dernières semaines, où on me demandait, ben, aurais-tu des albums à recommander, entre autres pour les fêtes, ben, il y avait toujours les 2 tomes des Mystères de Uptown qui s'y trouvaient, donc l'affaire des hommes disparus et l'ermite maudit. Pourquoi? Ben, parce que c'est des bons livres. Parce que, dans le fond, on retrouve donc une ambiance un peu à la Hardy Boy, parce qu'on retrouve une ambiance un peu aussi à la Twin Peaks là-dedans, donc avec cette ville et ses secrets. Parce que l'enquête elle-même est intéressante et stimulante, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que les personnages sont intéressants, parce que la ville est intéressante. Donc vraiment, il y a quelque chose là-dedans. Et les 2 auteurs néo-écossais ont vraiment mis le doigt sur une recette qui fonctionne, qui marche. Un côté rétro qui est très plaisant dans le graphisme, dans la mise en page. Mais surtout, dans le fond, un univers qui est solide, un univers qui est riche. Et un univers qui fait qu'on attend, pour ceux qui ont lu le 1 et le 2, qu'on attend le 3. On espère qu'il ne tardera pas trop. Je pense qu'il est en cours d'écriture, pas encore édité. Fait qu'il va venir un jour, je l'espère, mais j'ai bien hâte de lire et de voir comment ils vont développer justement ce Uptown-là. Mais sincèrement, les 2 premiers tomes, là, écoutez, je vous mets au défi, si vous commencez à les lire, vous aimez un tant soit peu ce style-là, de déposer le livre après. Là, bonne chance. Et sinon, pour clore mon top 3 traduction, qui serait comme ma première BD, peut-être ma première BD à l'échelle internationale, à tout le moins c'est celle que j'ai choisie pour le club de lecture la semaine prochaine, et je trouve que ça fait un bel écho avec La Bombe, Silicon State de Derf Bagderf. Bagderf, qui est déjà un auteur que j'aime, que j'apprécie beaucoup, entre autres avec Mon ami Damar, Trashed, Punk Rock and Mobile Homes et autres, donc qui est capable de bien amener le côté humain, côté récit, et qui a un gros bagage aussi journalistique. Et c'est un bagage qu'on retrouve bien dans Kent State, donc qui nous ramène dans les années 70 à l'université de Kent State, donc il y a des manifestations, une fusillade, et après 5 ans de travail, donc un peu comme pour La Bombe, ben, Bagderf a mis la main sur des témoignages, a fait des entrevues lui-même, a été chercher des registres de cours, des articles de journaux, et nous offre littéralement une reconstitution de la vie des 4 personnes qui ont été tuées à l'occasion de ces manifestations-là, réussi à mettre en contexte l'importance de ces événements-là aussi. Donc, bref, c'est réussi. Encore là, c'est une bonne brique, c'est dense, mais c'est fort, là, vraiment. Et on est vraiment dans une bande dessinée documentaire à haut niveau d'un point de vue journalistique. Donc, Kent State, 4 morts dans l'Ohio. Du côté francophone, c'est chez Ça et Là. Je ne rentre pas dans le détail parce que, ben, entre autres, si vous allez sur la chaîne YouTube ou sur laverbd.com, on a une longue entrevue avec Def Bagdef, plus d'une heure, où on jase en bonne partie de Kent State. Alors, je vous encourage peut-être à aller écouter ça si vous avez envie de creuser un petit peu plus, là, mais il faut la lire, cette BD-là. Et dernière ligne droite de la vie en BD pour cette semaine, donc qui sera consacrée aux albums internationaux. Albums internationaux qui se sont bien affichés aussi au fil de l'année. Je ne rentrerai pas nécessairement dans un détail absolu pour ceux-là, si ce n'est parce que pour certains, j'en ai déjà parlé, pour d'autres, on en reparlera dans les prochains jours, prochaines semaines. Je parle entre autres, en fait, de mon top 1. Je vais aller à l'inverse, comme je veux me garder plus de temps pour certains titres, donc mon top 1, donc Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Waouh! J'avais beaucoup apprécié Shangri-La. Et quand il est arrivé avec Carbone et Silicium, ben, on va un peu plus loin dans les réflexions, dans le propos, dans ce qui est amené, dans la manière de l'amener. Je veux dire, c'est solide là, comme bande dessinée. J'ai très hâte d'en jaser avec Mathieu Bablet. Ça se fera très prochainement. On vous partagera cet entretien-là, mais je ne veux pas en dire trop, si ce n'est que c'est de la grande science-fiction. Et si vous aimez la science-fiction à l'Asimov, celle qui soulève des questions, celle qui nous amène sur le terrain philosophique, sur le terrain éthique, qui remet en question, si on peut dire, certains choix qu'on fait. Bref, c'est vraiment dans cette case-là. C'est très bon et il faut le lire, voilà. Alors, Mathieu Bablet, Carbone et Silicium, j'en dis pas plus. C'est mon top 1, mais je veux juste que vous lisiez par vous-même. Là. Sincèrement, je pense que je pourrais vous faire un éloge de cet album-là, mais lisez-le, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Je pense que je ne suis pas le seul à le mettre dans les palmarès de fin d'année non plus. Donc, il faut le lire, il faut le découvrir, et vous comprendrez pourquoi. Dans un autre registre, donc Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff chez Casterman. Vraiment une belle surprise, en fait. Donc Anaïs Nin, qui est une autrice qui a fait donc des romans, des journaux intimes où elle racontait un peu son existence, ses réflexions, mais surtout où on comprenait qu'on est un peu dans la recherche de place, dans la quête de soi-même, dans une quête artistique aussi et surtout dans une quête émotive aussi. Et surtout, et donc différents journaux qui amènent différentes dimensions aussi de cette femme-là. Et Léonie Bischoff réussit à nous rendre ça et je pense à nous faire comprendre qui était Anaïs Nin, de quelle façon elle réfléchissait, quelles étaient ses aspirations et comment elle va réussir à faire ce qu'elle voulait faire ou à se laisser aller à faire ce qu'elle voulait faire aussi dans le contexte quand même social donc d'une autre époque. Visuellement, c'est super beau. Dessin, des couleurs, une mise en scène qui est tout en douceur, mais en même temps avec des éclairs de créativité qui sont là-dedans, qui ressortent. Donc, elle réussit aussi à rendre un peu la frénésie créative. On se retrouve avec aussi des belles séquences entre Anaïs Nin et ses amours, et ses amants et ses conjoints, appelons-les comme on veut. Donc, nous réussir à nous faire comprendre, nous faire rendre toute la richesse, toutes les dimensions de cette personne-là. Donc, bref, si vous aimez Anaïs Nin, lisez la BD. Je pense que vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Si vous ne la connaissez pas, lisez la BD. Et probablement, comme moi, vous allez tomber tranquillement après ça dans les journaux. Mais bref, c'est quelque chose, cet album-là. Et pour clore mon top 3 de sorties francophones après avoir fait des traductions, eh bien, j'irai peut-être avec le podium d'Hubert Ezanzim. J'avais envie d'aller un peu ailleurs dans mes sélections. Je me disais, bon, il faut sortir un peu de la science-fiction aussi. Mais on reste dans la quête de soi-même, je ne sais pas pourquoi. Donc, Podum, j'en ai parlé il y a quelques semaines, c'est l'histoire d'une famille qui ont accès à des podum, essentiellement à une podum qui peuvent se mettre et pour aller expérimenter un peu la vie d'un point de vue masculin et la jeune fille du récit, l'héroïne, donc la met pour aller rencontrer son conjoint qui finalement s'avère être homosexuel. Et là, ben, comment se place un peu la dynamique complexe dans le couple, dans la suite de l'histoire de ce couple-là aussi. Et quelque chose qui répète un peu anecdotique, finalement, devient un beau support à des réflexions, à des questionnements placés dans un contexte médiéval, mais qui s'applique aussi au contexte actuel. et qui ouvre des belles portes, je pense, à des discussions qui sont intéressantes. Ça a le Grand Prix de la critique à CBD, donc il y a quelques mois de ça, et je comprends bien pourquoi, en ayant lu l'album. Donc vraiment, en fait, ça vient clore mon top 3 francophone, mais sincèrement, j'en ai parlé il y a quelques semaines, donc encore là, je ne rentre pas dans le détail, mais un récit qui est très particulier, qui est bien maîtrisé, qui est à la fois léger et profond, et qui réussit à bien fonctionner sur l'ensemble des lignes qu'on aurait pu dépasser peut-être un peu là-dedans. Donc vraiment, fait à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de croiser le chemin de ce récit. Et je termine peut-être avec deux mentions honorables du côté francophone. Alors, dans un premier temps, Soon, donc une BD chez Darko de Benjamin Adam et d'un autre auteur dont le nom m'échappe, dont on reparlera la semaine prochaine puisqu'elle est dans la sélection de mon collègue Jérôme, qui m'est arrivé avec ça. J'ai découvert ça pendant le temps des fêtes, vraiment un récit sur, encore là, post-apocalyptique, changement climatique et le reste, qui amène des belles questions sur les choix qu'on fait actuellement, une mise en abîme de notre époque. Qui fait peut-être un peu, ça m'a moins touché que Carbone et Silicium, mais il fait aussi très bien. Et j'avais envie quand même de vous amener dans des récits de science-fiction qui soulèvent des questions importantes et qui nous offrent en fond une belle anticipation par rapport aux réflexions actuelles, si on peut dire, par rapport à l'avenir et l'évolution de notre société. Donc ça, c'est Soon. Et l'autre titre, c'est L'homme qui tua Chris Kyle, entre autres scénarisé par Fabien Nury. Je ne suis pas fort, j'oublie les noms des dessinateurs, mais bref, j'en ai parlé aussi en début d'année. On est dans la suite, on peut dire, d'American Sniper. Donc, qui a tué cet homme-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a vraiment une BD documentaire où les auteurs ne prennent pas position, mais nous présentent froidement, dans le fond, l'état des lieux, la situation, les gens, essayer de comprendre leur motivation à chacun dans ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Et vraiment nous amène dans un récit qui est aussi brillant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc vraiment, ça vient clair mes mentions honorables. Alors, je passe en revue peut-être rapidement les titres. Alors, pour le top 3 francophone, donc en 3, donc Peau d'homme. En 2, Anaïs Nin, Sur la mer des mensonges et Premier choix, Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Mention honorable à l'homme qui tue Chris Kyle et Soon. Top 3 traduction. En 3, donc Bix de Scott Chandler. En 2, Les deux tombes des mystères de Uptown de Chris Burton et Alexander Forbes. Et en 1, Le Kent State de Derf Bagderf. Pour ce qui est des mentions de la bande dessinée québécoise, donc le top 8, en 8, La brume de Mireille Saint-Pierre. En 7, Julie Rochelot et Sophie Bienvenue traverser l'autoroute. En 6, Alice de Jake Dion et Patrick Sénécal. En 5, C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. En 4, Traces de mocassin de Louis Rémillard. En 3, Kiem, Terre maternelle de Yasmine Fan Morissette et Djibril Fan Morissette. En 2, Vous avez détruit la beauté du monde de Christian Quesnel et al. Donc avec l'équipe de recherche André Sellard et d'autres qui ont beaucoup travaillé aussi sur cet album. Et en 1, La bombe de Laurent-Frédéric Bollé et Didier Alcante et Denis Rodier. Et mention honorable au Casar Rodéo de Tom, au Convoyeur de Dimitri Armand et Tristan Rouleau et à Blas, Le chat sur un toit brûlant de Michel Viau et Jocelyn Pognier. Un grand merci aux auteurs autrices, je pense, pour la belle année BD 2020. Très hâte de poursuivre mes lectures, évidemment, au fil de 2021. Je vous invite de votre côté à replonger dans nos archives, entre autres sur lavienbd.com. Et on se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour parler BD avec la gang du Club de lecture en restant dans notre thématique coup de cœur. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et à très bientôt.